enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Bien, alors nous allons tout de suite prendre Exode au chapitre 39, donc l'une de vous, rapidement, Exode 19, au verset 3 à 6. Lynn, tu prends, donc Évangéliste Isabelle, 19, 3 à 6, Lynn, Lévitique 26, 3 à 46.
Moïse monta vers Dieu, et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, « Tu parleras ainsi à la maison de Jacob, et tu diras aux enfants d'Israël, « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. »
Voilà. Alors, s'il te plaît, il faut lire un peu plus lentement pour que tout le monde puisse bien entendre et que ça soit bien clair. Oui, tu reprends.
Moïse monta vers Dieu, et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, « Tu parleras ainsi à la maison de Jacob, et tu diras aux enfants d'Israël, « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. »
Voilà les paroles.
Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël.
Amen. Donc nous voyons dans ce passage que le Seigneur, qui avait fait une alliance déjà avec Abraham, suivez-moi très très bien, le Seigneur avait fait une alliance avec Abraham. Et le Seigneur veut poursuivre son alliance. Donc, à Moïse, il lui dit, voici, il l'appelle du haut de la montagne et il lui dit, « Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, eh bien, vous serez une nation sainte pour moi. Vous serez un royaume pour moi. Vous serez des sacrificateurs pour moi. » Voilà l'alliance que le Seigneur avait faite avec, donc, Abraham et la suite, donc, de sa génération, de ses descendants jusqu'à Moïse. Son objectif, c'était d'avoir une alliance avec un peuple. Nous sommes d'accord? Voilà l'alliance dans laquelle il était positionné, dans laquelle Dieu avait voulu introduire le peuple d'Israël. Et une alliance, comme vous le savez, est toujours régie par des lois, par des commandements. Alors, nous avions les 10 commandements que vous connaissez. Vous connaissez ces 10 commandements? Tu n'auras pas d'autre Dieu, d'accord, devant ma face. Mais tu auras l'Éternel Dieu pour Dieu seul, pas d'idole, d'accord? Qu'est-ce qu'il y avait encore? Tu ne tueras pas, tu ne mentiras pas, tu ne convoiteras point, tu ne... Voilà, pas d'adultère, quoi d'autre? Tu ne voleras pas. Comment? Tu honoreras ton père et ta mère, et quoi d'autre? Il restait un. Pas de faux témoignage. Il reste encore un. Observez le sabbat. Voilà les 10 commandements que le Seigneur avait donnés. Et ensuite, en plus des 10 commandements, le Seigneur avait donné toute une liste de lois, toute une liste de lois morales, de lois civiles et de lois religieuses. C'est-à-dire que le peuple d'Israël devait avoir un certain comportement vis-à-vis de son prochain, vous savez, d'accord ? Donc il y avait tout un comportement à avoir. Il y avait aussi des lois pour les semences, il fallait ensemencer. Il fallait certaines fois ne pas ensemencer. Il y avait des époques qu'il fallait respecter. Il y avait des fêtes religieuses aussi à respecter. Tout était bien cadré. Bien. Et lorsque la loi, donc, et lorsque les commandements du Seigneur étaient respectés, eh bien, ils étaient sanctionnés. Et nous allons le lire dans Lévitique 26. C'est-à-dire que si le peuple gardait cette alliance, eh bien, ils avaient soit des sanctions, s'ils gardaient soit des bénédictions ou soit des malédictions. Je dirais donc soit des récompenses ou bien des châtiments. Alors, lisons-le dans Lévitique 26, Lynn.
Si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, je vous enverrai des pluies en leur saison. La terre donnera ses produits et les arbres des champs donneront leurs fruits. À peine aurez-vous battu le blé que vous toucherez à la vendange et la vendange atteindra les semailles. Vous mangerez votre pain à satiété et vous habiterez en sécurité dans votre pays. Je mettrai la paix dans le pays et personne ne troubla votre sommeil. Je ferai disparaître du pays les bêtes féroces et l'épée ne passera point par votre pays. Vous poursuivrez vos ennemis et ils tomberont devant vous par l'épée. 5 d'entre vous en poursuivront 100 et 100 d'entre vous en poursuivront 10 000. Et vos ennemis tomberont devant vous par l'épée. Je me tournerai vers vous, je vous rendrai fécond et je vous multiplierai. Et je maintiendrai mon alliance avec vous. Vous mangerez des anciennes récoltes et vous sortirez les villes, les vieilles pour faire place aux nouvelles. J'établirai ma demeure au milieu de vous et mon âme ne vous aura point en horreur. Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Je suis l'Éternel votre Dieu qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte, qui vous ai tiré de la servitude. J'ai brisé les liens de votre joug et je vous ai fait marcher la tête levée.
La suite.
Les malédictions. Mais
non,
si.
Non, il n'y a pas les malédictions. C'est l'éditeur. Donc, oui. Ça, ce n'est pas la parole du Seigneur. Donc, verset 14.
Verset 14. Mais si vous ne m'écoutez point et ne mettez point en pratique tous ces commandements, si vous méprisez mes lois et si vos âmes ont en horreur mes ordonnances, en sorte que vous ne pratiquez point tous mes commandements et que vous rompiez mon alliance, voici alors ce que je vous ferai. J'enverrai sur vous la terreur, la langueur et la fièvre qui vous rendront vos yeux languissants et votre âme souffrante. Et vous semerez en vain vos semences. Vos ennemis les dévoreront. Je tournerai ma face contre vous et vous serez battus devant vos ennemis. Ceux qui vous haïssent domineront sur vous et vous fuirez sans que l'on vous poursuive. Si malgré cela, vous ne m'écoutez point, je vous châtirai 7 fois plus pour vos péchés. Je briserai l'orgueil de votre force. Je rendrai votre ciel comme du fer et votre terre comme de l'airain. Votre force s'épuisera inutilement. Votre terre ne donnera pas ses produits. Et les arbres de la terre ne donneront pas leurs fruits. Si vous me résistez et ne voulez point m'écouter, je vous frapperai 7 fois plus selon vos péchés. J'enverrai contre vous les animaux des champs qui vous priveront de vos enfants, qui détruiront votre bétail et qui vous réduiront à un petit nombre et vos chemins seront déserts. Si ces châtiments ne vous corrigent point, et si vous me résistez, je vous résisterai aussi, et je vous frapperai 7 fois plus pour vos péchés. Je ferai venir contre vous l'épée qui vous vengera mon alliance.
Qui vengera mon alliance.
Quand vous rassemblerez dans vos villes, j'enverrai la peste au milieu de vous, et vous serez livrés aux mains de l'ennemi.
Merci. Et il y a encore d'autres, que nous voyons, donc il y a encore d'autres châtiments qui sont énumérés dans ce passage jusqu'au verset 39. Voilà donc, en gros, l'ancienne alliance, l'alliance dans laquelle Israël se trouvait. Si Israël pratiquait les 10 commandements plus toutes les lois civiles, morales, religieuses, alors ils avaient part à la bénédiction de Dieu. Et s'ils n'obéissaient pas, s'ils résistaient à cette alliance, eh bien, à ce moment-là, ils étaient frappés de malédiction. Nous allons voir comment Dieu, compte tenu du fait que Israël n'a pas su persévérer dans cette alliance, a voulu de toute façon faire en sorte que cette alliance réussisse. Regardons premièrement dans Genèse au chapitre 17. Quand Dieu a donné cette loi, avant même qu'il la donne, puisque nous sommes dans Genèse, Dieu savait que Israël n'allait pas pouvoir tenir dans l'alliance. Alors ce que Dieu a fait, c'est qu'il avait déjà prévu que cette alliance devait être éternelle. Lisons-le dans Genèse 17 au verset 7.
J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai à toi et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu.
Voici. Donc nous comprenons ici que l'objectif de Dieu, c'était de faire en sorte que cette alliance soit éternelle. Donc il dit à Abraham, ici c'est à Abraham qu'il s'adresse, il dit ce sera une alliance perpétuelle. Donc Dieu s'engage, suivez très bien s'il vous plaît, Dieu s'engage d'une manière éternelle vis-à-vis d'Abraham, pour lui et pour toute sa descendance. L'objectif que Dieu poursuivait, quelle que soit la position du peuple d'Israël, même si Israël allait être infidèle à cette alliance, mais l'objectif de Dieu, c'était qu'elle soit éternelle. Et nous continuons donc dans Genèse 17, au verset 17 et 19.
Abraham tomba sur sa face, il rit et dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans et Sarah âgée de 90 ans? Enfanterait-elle? Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Dieu dit, certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour une postérité après lui, à l'égard c'est d'Ismaël.
Bon. Voilà. Donc, nous voyons ici que le Seigneur promet, il dit à Abraham que c'est au travers d'Isaac que je te donnerai une alliance qui sera perpétuelle. Est-ce que Dieu ment? Est-ce que Dieu dit quelque chose et dédie après? Alors prenons maintenant Jérémie au chapitre 31. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, évangéliste Isabelle, Jérémie 31, à partir du verset 31 à 34, jusqu'au verset 34.
Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel !» Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leur péché.
Est-ce que vous avez bien entendu? Alors que Dieu dit que cette alliance qu'il a faite est une alliance perpétuelle, une alliance éternelle, avec des lois, des commandements, des directives qu'il fallait appliquer, des bénédictions et des châtiments, voici que Dieu dit, je ferai une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père, alliance qu'ils ont violée. Alors Dieu ne se contredit pas, malgré qu'il dise cela. Mais Dieu avait fait une alliance avec Abraham. Et l'alliance qu'il avait faite avec Abraham n'était pas une alliance, d'un instant où le peuple d'Israël, parce qu'il avait péché, se retrouverait banni de cette alliance. Non. Le Seigneur avait placé cette alliance au-dessus. Et nous allons voir comment. 2 Samuel 4, verset 12. Dieu ne comptait pas sur l'obéissance d'Israël pour perpétuer son alliance. Dieu ne comptait pas sur l'obéissance d'Israël pour perpétuer son alliance. Mais Dieu comptait sur une seule chose. 2 Samuel 4, verset 12. Et avant de le lire, j'aimerais vous le dire. Dieu comptait sur une seule chose. Dieu ne comptait pas sur l'obéissance d'Israël pour perpétuer son alliance. Mais Dieu comptait sur la foi qu'Abraham avait placée en lui. Parce que Abraham avait cru dans la parole du Seigneur, donc le Seigneur lui a fait une promesse qui allait être immuable, éternelle, perpétuelle. Et donc, quelle que soit la situation du peuple d'Israël, il fallait que Dieu dépasse le problème de l'infidélité d'Israël pour continuer son alliance envers Abraham. Qu'est-ce qu'il dit dans 2 Samuel 4 au verset 12 ?
Et David ordonna à ses gens de les tuer.
Non, attends, nous ne sommes pas dans la bombe. Ça doit être 1 Samuel 4. La bonne référence. Non, attends, je vais faire la bonne référence. C'est quoi? Voilà, attends. 2 Samuel. Non. Voilà. Donc c'est 2 Samuel 7, verset 12. 2 Samuel 7, verset 12. Dieu s'adresse maintenant à David et voici ce que Dieu lui dit.
Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi. Celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne.
La suite.
Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes, et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté devant toi.
La suite.
Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi.
Voyez ? Donc, la promesse que Dieu avait faite à Abraham, parce que Dieu avait considéré la foi d'Abraham, malgré l'infidélité qui reposait sur Israël par rapport à la première alliance, Dieu continue et cherche et trouve un homme en la personne de David à qui il continue de promettre. David était la postérité d'Abraham. Et Dieu continue de promettre que ton règne sera pour toujours. Ton règne sera pour toujours. Et donc je trouverai bien celui par qui je vais faire venir cette alliance qui ne dépend pas de l'obéissance ou de la désobéissance d'Israël. De qui s'agit-il ? De qui s'agit-il ? Jésus. Jésus est bien le fils de David. Il vient de la tribu de David. Prenons Hébreux 8, versets 7 à 13. Hébreux 8, à partir du verset 7. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, « Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi non plus. Je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Donc pour le Seigneur ne s'est pas soucié de la maison d'Israël, mais il s'est soucié d'Abraham, il s'est soucié de cette promesse et il a voulu la poursuivre en la personne de Jésus. Il nous dit, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son concitoyen, ni personne son frère en disant, connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré ancienne la première. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. Bonjour, Pasteur David. Gloire à Dieu. Est près de disparaître. Ce qui signifie, et c'est très important pour nous de comprendre de quoi il s'agit, c'est que l'ancienne alliance, avec ses commandements, me suivez, avec ses lois morales, ses lois civiles, ses lois religieuses, elle a vieilli, elle est ancienne et elle est près de disparaître. Et que le Seigneur a voulu placer une nouvelle alliance. Une nouvelle alliance qui est basée sur quoi? L'ancienne alliance était basée sur les commandements, vous êtes d'accord avec moi, que Moïse avait reçus. Voilà. Les 10 commandements plus toutes les lois. La nouvelle alliance est basée sur quoi? Il nous l'est dit là, ici, au verset 12. Parce que je pardonnerai. Voilà. La nouvelle alliance est basée sur le pardon. L'alliance, l'année de l'alliance est basée sur le pardon. On avance. 2 Corinthiens 5, verset 17.
Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles.
La suite. Verset 19.
Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leur offense, et il a mis en nous la parole de la réconciliation.
Amen. Lorsque le fils de David est apparu, ce n'est pas le fils de David, parce que David avait beaucoup de fils, vous le savez. Mais lorsque le fils de David, qui était de la lignée de David, est apparu, il s'agit de Jésus, qui est Dieu lui-même. Et lorsqu'il est apparu, son objectif, c'était de ne plus imputer les péchés aux hommes. C'était de leur pardonner les péchés pour pouvoir accomplir cette nouvelle alliance dont il nous est parlé. Une nouvelle alliance qui ne serait pas comme celle d'avant, qui ne serait pas sanctionnée de bénédiction ou de malédiction, mais une nouvelle alliance basée sur le pardon. Prenons encore un autre passage et après nous allons comprendre d'autres choses. Hébreux, à partir du chapitre 10, du verset 1 à 18, je vais le lire. En effet, la loi qui possède, la loi de Moïse, d'accord, qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, puisque ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés? Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit « Voici, je viens. » Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Après avoir dit d'abord « Tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi », il dit ensuite « Voici, je viens pour faire ta volonté. » Il supprime ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur, à l'époque de la loi, fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit « Voici l'alliance que je ferai avec eux », après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Et il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leur péché ni de leur iniquité. Or là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que autrefois, dans la loi, parce que le peuple ne tenait pas dans la loi, parce que les commandements disaient « ne fais pas ceci, ne fais pas cela » et qu'ils n'arrivaient pas, alors ils avaient tout un tas de sacrifices à faire pour pouvoir avoir le pardon de Dieu et continuer à essayer de pratiquer la loi. Mais ils n'ont pas persévéré, ils ont été infidèles. Même dans la pratique des sacrifices, ils ont fait des choses qui n'étaient pas à la gloire de Dieu. Est-ce que vous vous rappelez de ceux qui avaient apporté du feu étranger sur l'autel? Voilà, donc c'était du n'importe quoi. Et Dieu, ayant vu tout cela, voulant pourtant triompher dans son alliance, a dit, eh bien écoutez, puisqu'ils n'arrivent pas à ne pas pécher, ça veut dire que le problème c'est le péché. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut régler le problème du péché. Comme ça, je pourrai être en alliance avec mon peuple. Et une fois que j'aurai réglé ce problème et qu'on ne parlera plus du péché, eh bien je pourrai être en communion avec eux. Alors qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a envoyé son Fils comme un sacrifice parfait, comme le sacrifice unique qui ôte une fois pour toutes les péchés. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et donc c'est ainsi que le Seigneur a fait cet allant, a proclamé, a annoncé, a établi, a instauré cette alliance nouvelle. Et vous savez qu'une alliance est toujours scellée. Une alliance, qu'est-ce que c'est? C'est un accord entre deux parties qui doit être garanti par le respect de l'accord. Et si l'accord n'est pas respecté, cette alliance est rompue. Et pour qu'une alliance soit validée, il faut qu'elle soit signée, il faut qu'elle soit ratifiée. Peut-être qu'on va mettre un tampon ou bien un sceau. Une alliance doit être scellée. Pourquoi? Parce que si une alliance n'est pas scellée, s'il n'y a pas de signature, de ratification, de tampon, on peut falsifier l'alliance. Vous êtes d'accord avec moi? Lorsque les États font un traité de paix entre eux, si jamais ce n'est pas bien signé, il y a problème. Donc, il faut qu'il y ait le sceau de l'État en question, qui prouve que c'est vraiment l'État qui a pris cette décision. Eh bien, c'est pareil entre Dieu et les hommes. Il faut un sceau pour l'alliance. S'il n'y a pas de sceau, la falsification peut venir, les ajouts peuvent venir, ou on peut même retrancher des choses. Voilà. Mais lorsque le sceau est là, c'est scellé. Personne ne peut même s'opposer à cela. Cela veut dire que c'est validé, c'est sûr. Vous voyez, c'est une certification. Et toute alliance est scellée. Et Dieu a établi pour lui le sceau de Dieu. Le seul sceau qui est valable aux yeux de Dieu, c'est le sang. Il n'y a aucun autre sceau qui puisse être valable pour Dieu si ce n'est le sang. Nous allons le voir dans Hébreux au chapitre 9. Je vous ai dit qu'on va beaucoup tourner dans la parole parce que il faut comprendre ces choses. Donc, évangéliste Isabelle, tu vas lire pour moi Hébreux 9 à partir du verset 18.
Voilà pourquoi
18 à 22.
Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope. Et il y fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant « Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. » Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon.
Vous voyez, le sang avait déjà été utilisé dans l'Ancien Testament, dans l'Alliance ancienne. Il fallait du sang pour pouvoir sceller tout ce qui avait été dit. Et nous allons le voir maintenant dans Exode 24. Lynn, Exode 24, 3 à 8.
Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix : Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel, puis il se leva de bon matin, il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Ils dirent, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Moïse prit le sang et il le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous, selon toutes ses paroles.
Voyez ? Donc, à cette époque, dans cette alliance-là, il a fallu du sang. L'hysope, c'est une branche, un arbre, quoi. Un arbuste. Voilà, en tout cas, c'est un arbre, c'est un feuillage, voilà. Il prend le feuillage, donc il avait cette branche d'hysope, et avec cette branche d'hysope, il trempait dans le sang et il aspergeait comme ça le peuple. Donc le sang, voilà, comme on dirait un rameau, c'est ça. Et il aspergeait le peuple comme cela, donc des gouttelettes de sang arrivaient sur le peuple, et c'est comme ça que le peuple était purifié. Bien. nous continuons à comprendre que dans la parole de Dieu, selon Dieu, toute alliance est scellée par le sang. Cela a été fait pour l'Ancien Testament. Mais nous comprenons que ce sang de l'Ancien Testament était le sang des boucs, le sang des taureaux, le sang des animaux. Ce sang-là ne peut pas purifier la conscience d'un être humain. Et donc, lorsque Dieu veut faire une nouvelle alliance et accorder maintenant à son peuple le pardon, il ne veut pas leur donner des paroles qu'ils vont observer. Écoutez bien, il ne leur donne pas des paroles à observer, mais il leur donne le pardon. Et il inscrit ses lois dans leur cœur. Ça veut dire qu'il convainc dans leur cœur de ce qu'ils devront faire et de ce qu'ils ne devront pas faire. Pour que cette alliance soit scellée, eh bien là aussi, il faut du sang. Prenons Matthieu au chapitre 26. Matthieu 26 au verset 27. Jésus, avant d'aller à la croix, est avec l'ensemble de ses disciples et prend son dernier repas de Pâques. Et il prit ensuite, donc au verset 27, il prit ensuite une coupe. Et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. » Le sang de l'Alliance. Aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle alliance. Et il est temps de comprendre dans quelle alliance nous sommes. Et par quoi elle est scellée. Elle est scellée par le sang de Jésus. Et il nous faut comprendre pourquoi le sang. Pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu ne prend pas autre chose? Il aurait très bien pu prendre autre chose. Mais pourquoi est-ce que Dieu nous donne du sang? Regardons dans Lévitique au chapitre 17. Je le lis, verset 10. Si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux mange du sang d'une espèce quelconque, je tournerai ma face contre celui qui mange le sang et je le retrancherai du milieu de son peuple. Car la vie de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes. Car c'est par la vie que le sang fait l'expiation. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, personne d'entre vous ne mangera du sang et l'étranger qui séjourne au milieu de vous ne mangera pas du sang. Voyez ? Car la vie de toute chair, au verset 14, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car la vie de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. Le sang contient la vie. Et il fallait que Dieu donne du sang pour pardonner le péché. Pourquoi? Parce que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Celui qui pèche, c'est celui qui mourra. Donc, à partir du moment où tu pèches, tu es dans la mort. Répète à ton voisin, parce qu'il faut que ça rentre. Quand tu pèches, tu es dans la... Alors, qu'est-ce qu'il faut pour que tu aies la vie? Il faut du sang. Et du sang vivant. Il faut du sang. Amen. Alors, le seul moyen pour Dieu d'éradiquer la puissance du péché qui donne la mort, c'est de donner le sang. Et pas n'importe quel sang, mais le sang de celui qui vit éternellement. Le sang de Jésus. Amen. Donc ce sang a coulé. Ce sang a coulé. Et c'est pourquoi le Seigneur a dit lui-même que voici le sang de l'alliance, le sang de la nouvelle alliance. Buvez-en tous, car ceci est mon sang pour le péché ou pour la rémission des péchés de beaucoup. Voyez ? Et vous avez vu dans Lévitique que le Seigneur avait interdit de boire le sang. Vous avez vu, non ? Donc comprenez que lorsque Jésus, dans Jean 8, s'est adressé aux Israélites et leur a dit que si vous ne buvez pas mon sang, on va le lire ensemble. Vous allez voir le scandale que ça a créé. Parce qu'ils n'ont rien compris. Jean 6, au verset 53. En vérité, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Amen. Alors qu'est-ce qu'il s'est passé? Lorsque le Seigneur a dit ça au verset 60, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, il leur dit « Cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant ?» Ils étaient scandalisés. Parce qu'ils savaient la loi. Pour eux, ils restaient concentrés sur l'ancienne alliance. Qu'on ne doit pas manger du sang. Mais dans la nouvelle alliance, le sang que l'on doit boire, c'est celui de Jésus. Pour avoir la vie et le pardon des péchés. Prenons Hébreux 10, au verset 19. Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Approchons-nous donc, amen. Approchons-nous donc, parce que la nouvelle alliance dans laquelle tu es, c'est une alliance de pardon. C'est une alliance où le sang de Jésus te purifie. Il purifie ta conscience. Donc ta conscience doit être libre. La culpabilité, c'est terminé. Hébreux 12, verset 18. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles. Tels ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur soit pas adressé une de plus, car ils ne supportaient pas cette déclaration. Même si une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit « Je suis épouvanté et tout tremblant. » Comprenez que l'ancienne alliance était terrible. Amen. C'était terrible. On voyait toute la puissance de condamnation de Dieu face au péché. Mais verset 22, il nous est dit « Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Le sang est là-haut. Et quand vous commencez à invoquer le Seigneur, eh bien vous vous approchez aussi du sang. Vous vous rappelez que dans l'ancienne alliance, Moïse avait mis le sang dans des bassins et qu'il avait fait l'aspersion sur le peuple. Mais Jésus aujourd'hui est le médiateur de cette alliance. Et c'est lui qui prend de son sang pour le mettre sur toi, afin que tu puisses entrer librement, être libre, et que lorsque tu t'adresses à ton Père, il n'y ait pas de barrière entre toi et lui, qu'il n'y ait pas le péché entre toi et lui, mais que tu puisses t'adresser librement à ton Père. Ce sang est vivant, ce sang est accessible. Ce sang est le sceau de cette alliance. Et si tu veux marcher dans l'alliance, si tu veux marcher dans l'année de l'alliance, et si tu veux marcher vraiment dans l'alliance, eh bien tu as besoin d'invoquer ce sang. Tu as besoin d'invoquer ce sang sur toi, parce que c'est ce sang qui te donne accès. C'est ce sang qui te donne accès aux promesses de Dieu. Autrefois, les promesses étaient contenues dans l'obéissance. Si obéissance, bénédiction. Si désobéissance, malédiction. Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit bénédiction si le sang. Bénédiction si le sang. Alléluia. Bénédiction si le sang. Merci Seigneur. Hébreux 9. Il faut voir les versets. Il faut lire les versets. Parce que tout est dans les versets. Verset 14. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Quoi ? Hébreux 10. Hébreux 10, pardon, verset 14. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Pour toujours. Pour. Alors pourquoi tu es coupable? Pourquoi tu te sens coupable? Des choses qui se sont passées. Des choses que tu fais encore aujourd'hui. Pourquoi? Puisqu'il te dit qu'il t'a sanctifié pour. Combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Il purifie ta conscience. Il veut que ta conscience soit libre. Et que quand tu t'approches, tu es libre. Tu es libre. Si tu n'as pas cette conscience libre, si tu n'as pas cette conscience pure, tu n'auras pas l'assurance pour demander à Dieu. Tu n'auras pas l'accès parce que tu ne réalises pas que le seul accès que Dieu agrée, c'est le sang. Hébreux 9, 22. Presque tout d'après la loi était purifié avec du sang et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Presque tout était purifié. Et nous allons lire quelque chose dans Exode 12 qui va nous aider à comprendre ce que je veux vous dire là maintenant. Presque tout était purifié. Est-ce que toi, tu purifies presque tout avec le sang? Exode 12, versets 21 à 24. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, « Allez prendre du bétail pour vos familles et immolez la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope. Vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur les linteaux et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. » Parce qu'ils avaient mis le sang et c'était le sang de bouc. Mais toi, est-ce que tu prends le sang de Jésus? Est-ce que tu prends vraiment le sang de Jésus pour mettre sur ton esprit, sur ton âme, sur ton corps, dans ta maison, sur tout ce que tu touches? Est-ce que tu prends le sang? Parce que le destructeur arrive. Mais Dieu veut protéger ta vie. Le sang purifie. Le sang lave la conscience. Le sang te lave, lave ton corps de toutes les souillures que tu as connues. Et le sang te protège. Et vous savez, le sang, même si tu ne le vois pas, c'est une réalité. Si Dieu peut ouvrir tes yeux, tu le verras. Mais même si tu es, par exemple, ici, et que tu veux protéger quelqu'un qui est au loin, alors tu demandes le sang de Jésus sur cette personne. Cette personne est protégée. Amen. Et si tu demandes le sang de Jésus sur ce pays sera protégé. Amen. Nous devons invoquer le sang. Le sang s'invoque. Oui, puisqu'ils ont dit prenez l'hysope et appliquez le sang. Alors nous aussi, nous devons appliquer le sang de Jésus. Parce qu'il a coulé. Il a coulé. Et nous avons lu tout à l'heure qu'il est dans les cieux. Toute alliance a... Toute alliance, nous l'avons dit, est scellée par du sang. Toute alliance avec Dieu. Et nous sommes dans la nouvelle alliance, nous sommes scellés par le sang. Toute alliance a aussi un médiateur. Ça veut dire que c'est celui qui garantit l'alliance. Autrefois, dans l'ancienne alliance, ceux qui garantissaient l'alliance, c'était les sacrificateurs. Nous allons le lire dans Malachie, au chapitre 2, du verset 1 à 9. Malachie, c'est le livre qui est juste avant Matthieu. Malachie au chapitre 2. Et je lis. Maintenant à vous cet ordre, sacrificateur. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. Voici, je détruirai vos semences et je vous jetterai des excréments au visage, les excréments des victimes que vous sacrifiez et on vous emportera avec eux. Vous saurez alors que je vous ai adressé cet ordre afin que mon alliance avec Lévi subsiste, dit l'Éternel des armées. Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix. Ce que je lui accordais pour qu'il me craigne, et il a eu pour moi de la crainte, il a tremblé devant mon nom. La loi de la vérité était dans sa bouche, et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture, et il a détourné du mal beaucoup d'hommes. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Mais... vous vous êtes écarté de la voie. Vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs. Vous avez violé l'alliance de Lévi, dit l'Éternel des armées. Et moi, je vous rendrai méprisable et vil aux yeux de tout le peuple parce que vous n'avez pas gardé mes voies et que vous avez eu égard à l'apparence des personnes quand vous interprétez la loi. Voyez, les sacrificateurs étaient médiateurs de l'alliance qui était une alliance par la loi. Mais ils n'ont pas persévéré dans l'alliance. Et donc, les sacrificateurs ont été disqualifiés par le Seigneur. Alors, il fallait un médiateur. Et aujourd'hui, dans notre nouvelle alliance, nous avons notre médiateur. Un médiateur parfait, un médiateur qui ne faillit pas. Et ce médiateur, c'est Jésus. Dans Hébreux 7, au verset 11, il nous est dit, « Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, donc Lévi, la tribu de Lévi d'Aaron, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. Était-il encore nécessaire qu'il paraisse un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron ? Amen. Verset 13. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu, dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda. Voyez, Juda, donc fils de David, parce que David était de la tribu de Juda, et la tribu de Lévi n'est pas la tribu de Juda. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Amen. Voilà. Donc le Seigneur est sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Et nous allons le voir encore. Hébreux, chapitre 6, verset 20. Là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Et nous lisons, qui est ce Melchisédek ? Au chapitre 7, au verset 1, « En effet, ce Melchisédek était roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut. Il alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois. Il le bénit et Abraham lui donna la dîme de tout. Il est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Roi de... Il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. » Amen. Voilà notre médiateur. C'est un roi de paix. Ton médiateur est venu avec paix. Et il te regarde dans la paix. Parce qu'en lui, tout n'est que paix. Il a versé son sang pour te pardonner et pour que tu sois dans son alliance et que tu bénéficies de son alliance. Regardons Éphésiens au chapitre 1. Éphésiens 1, verset 3. Béni soit le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. La nouvelle alliance. L'alliance. L'année de l'Alliance. Dis à ton voisin, tu vas rentrer. Tu vas rentrer aujourd'hui même. Amen. Ton alliance. Alléluia. Il est le médiateur. C'est lui. Il est le garant de cette alliance. Il a versé son sang pour que tu y accèdes. Donc, il ne te condamne pas. Il ne te regarde pas avec des yeux durs. Il te regarde avec amour, avec compassion. Il est déjà en train d'afficher devant son Père la paix pour toi. Il est favorable à toi. Qu'est-ce que tu veux lui demander ? Qu'est-ce que tu attends de lui ? Il est favorable. Vous savez que toute alliance... Toute alliance a un signe. Et c'est par ce signe que l'on accède aux promesses qui sont contenues dans l'alliance. Quel était le signe pour les Israélites ? La circoncision. Si on voulait reconnaître si quelqu'un était juif ou pas, eh ben, pendant la Seconde Guerre mondiale, eh ben, ils déshabillaient les hommes et puis ils regardaient s'ils étaient circoncis ou pas. Il y a un signe. Et quel est le signe de la Nouvelle Alliance? Non, le sang, c'est le sceau. Le sang, c'est le sceau. C'est ce qui valide l'alliance. Le pardon? C'est le signe qu'on va avoir sur le front? Non. Hein? La circoncision du cœur. Ah, mais tu vois, ce signe-là, il n'y a que Dieu qui le voit. Donc ça, franchement, si tu vois, ça, il n'y a que Dieu qui le voit. Donc ce n'est pas un signe, parce que le signe doit être évident. Hein? Hein? La sanctification, non. Le baptême, non. Né de nouveau. Le signe, c'est ta foi. Ah ben oui, le seul signe que Dieu a agréé, ta foi. Tu veux accéder à l'alliance, tu veux accéder au sang, tu veux accéder à Jésus, crois seulement. Et le problème, c'est que tu ne crois pas. Parce que, pourquoi j'ai dit que c'est un signe? Parce que la foi doit se voir. Et l'apôtre Jacques disait, montre-moi tes œuvres et je te dirai quelle foi tu as. Montre-moi tes œuvres et je te dirai quelle est ta foi. Alléluia. Et le problème, c'est que nous voulons prendre la nouvelle alliance, nous voulons prendre le sang, nous voulons être scellés dans le sang, nous voulons prendre tout ce que vous avez dit là, baptême, sanctification, circoncision du cœur, tout ce que vous voulez, mais la foi. Par ta foi, tu seras justifié. Alléluia. L'accès à l'alliance, c'est par la foi. Ce n'est que par la foi. Il n'y a pas d'autre moyen, Romains 3. Il n'y a pas d'autre moyen. Romains 3, verset 21. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Pour tous ceux qui croient. La justice de Dieu est manifestée par la foi en Jésus. Et c'est ce qui manque. Tu veux vivre l'alliance. Tu veux vivre la plénitude de l'alliance. La plénitude de l'alliance. L'alliance, dans la nouvelle alliance, il n'y a que bénédiction pour ceux qui croient. Il n'y a rien d'autre. Pardon, bénédiction, joie, paix, amour, vie, tout ce que tu veux de positif. Parce que tout est là, tout est en Jésus. Mais il faut croire. Il faut croire. C'est le signe particulier. Le Seigneur va commencer à passer dans les rangs et il va regarder celui-là, est-ce qu'il a la foi? Est-ce qu'il a la foi? Est-ce qu'il peut rentrer dans mon alliance? Est-ce qu'il a la foi? C'est ce que le Seigneur disait. Lorsque le Seigneur passait en Israël, tout ce qu'il voulait remarquer, c'était la foi. C'était la foi. Ce qu'il a voulu susciter, c'est la foi. Il a dit, celui qui croira sera sauvé. Celui qui croira, eh bien, il se fera baptiser parce qu'il croit. Donc, ce n'est pas d'abord le baptême. Celui qui croit, eh bien, il se sanctifie. C'est parce qu'il croit. Alléluia. Amen. Donc on n'est pas en train de se sanctifier pour accéder à l'alliance. Détrompez-vous. On se sanctifie parce que nous sommes dans l'alliance. Amen. Et là, il est temps de vivre l'alliance. L'année de l'alliance, il est temps de la vivre. Et tout ce que le Seigneur veut, c'est que tu manifestes ta foi. Tu t'es paralysé, tu t'es bloqué par ton manque de foi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois. Est-ce que le Seigneur a mis une autre condition? Est-ce qu'il a dit si tu, je sais pas, si tu te sanctifies, tu verras la gloire de Dieu? Amen. Voilà. Si tu crois, tu vas te sanctifier, c'est évident. Donc je ne parle pas de cet aspect-là. Amen. Où est ta foi? Où est ta foi? Le Seigneur disait à ses disciples, hommes de peu de foi. Parce qu'il y a toutes sortes de foi. Il y a peu de foi, il y a la foi petite, il y a la foi faible, il y a toutes sortes de foi. Mais le Seigneur dit, approchons-nous, la foi pleine et entière. C'est cette foi-là que le Seigneur veut. Croyant, chrétien, le chrétien c'est le croyant. Sa vie c'est de croire. Croyant, c'est au présent, c'est le participe présent. Ça veut dire qu'il vit une vie de foi. Tout ce qu'il fait, c'est par la foi. Où est ta foi? Où est ta foi? L'alliance que le Seigneur nous donne, nous propose, pour laquelle il est mort, c'est une alliance de vie et de paix, de vie éternelle, de réconciliation avec Dieu, d'accès à ses bontés. Mais où est ta foi? Certains ne croient même pas que Dieu les aime, alors que Jésus est mort pour toi. Alors que Jésus est mort pour toi. Alors tu crois que Jésus est mort et puis il est méchant? Il est mort, c'est pour que tu aies accès. Et donc maintenant, il faut que tu prennes une position de foi. Il faut que tu décides de marcher vraiment par la foi. La foi dans ce que tu dis. Le Seigneur dit, si quelqu'un, on va le lire, Marc 11, verset 23, verset 22, Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Est-ce que le Seigneur a mis une autre condition pour voir l'accomplissement? Non. Il a dit croyez. Croyez. Et la foi ne s'embarrasse pas du temps. Quel que soit le temps que ça va prendre, mais tu crois. Amen. Et comme tu crois, eh bien tu le verras s'accomplir. Alléluia. Et là, il faut te positionner aujourd'hui. Parce que la nouvelle alliance, l'année de l'alliance, on est au mois de février. Alléluia. On est au mois de février. Donc, il faut que tu vives maintenant l'alliance. Il faut que tu la vives. Et pour vivre l'alliance, eh bien, c'est par la foi. Par la foi, tu t'approches. Tu t'approches avec le sang de Jésus. Tu dis au Seigneur, Seigneur, je crois en toi. Je crois que tu es mort pour moi. Je crois que tu as versé ton sang pour m'agréer, pour m'être favorable, pour me donner ton approbation, pour que lorsque je viens dans ta présence, tout ce que je vais te demander, tu vas me l'accorder parce que tu m'as déjà pardonné, parce que tu as déjà effacé mes péchés, parce que tu me vois pur, parce que tu me vois saint, parce que tu me vois juste, parce que tu me vois droit. Alors je m'approche, je viens, Seigneur, avec certitude, avec fermeté, et voici ce que je te demande, Seigneur. Et tu demandes. Alléluia. La foi est une ferme assurance des choses que l'on espère est une démonstration. Ça veut dire que non seulement tu es sûr, mais la foi va aboutir à quelque chose que tu verras dans le monde naturel. C'est par là que tu as accès à l'alliance. Quelle alliance tu veux d'autre? Quelle alliance tu veux d'autre? Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Alors, faire alliance avec Jésus? Jésus a fait alliance avec nous. Et toi, rentre dans l'alliance. Vis l'alliance. Respire l'alliance. Marche dans l'alliance. Prie dans l'alliance. Réjouis-toi dans l'alliance. Alléluia. Ton cœur ne doit pas être un coup oui, un coup non. Positionne-toi dans la foi. Parce que ceux qui sont dans l'alliance, c'est sur ceux qui ont la foi. Amen. C'est ton signe particulier. Et à partir d'aujourd'hui, j'espère que tu as bien compris que tu vas montrer au Seigneur jour après jour. Lundi, j'ai la foi. Mardi, j'ai la foi. Mercredi, j'ai la foi. Jeudi, j'ai la foi. Vendredi, aïe, 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 dimanche, c'est l'explosion de foi. Amen. Oui. Alléluia. L'explosion de foi. Tu dois entretenir une foi forte. Une foi forte. Tu dois apprendre à avoir une foi forte. Et la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend. Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu entends? Est-ce que c'est les pensées que le diable fait répéter dans ta tête que tu n'es rien, tu ne peux rien, tu ne sauras rien, tu ne vas rien faire? Ou bien est-ce que tu entends la parole de Christ qui te dit tout est accompli? Rentre, rentre mon enfant, tout est accompli. Demande, tu auras, demande. Alléluia. Ça dépend de ce que tu entends. Autrement dit, ça dépend de ce que tu veux écouter. Et la télévision, qu'est-ce qu'elle te dit la télé? Tu as une télécommande, commande-la. Tu la commandes. Et tu lui dis, tu te tais au nom de Jésus. Tu commences à mettre la louange. Alléluia. Amen.